Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Après le 300e numéro la semaine passée, Mélomanie ouvre un nouveau cycle en ce début février où les événements musicaux se succèdent au même rythme qu'à la fin du mois de janvier. Ce mardi soir a lieu la 7e et dernière représentation d'Orphée aux Enfers, l'opéra de Jacques Offenbach au Théâtre du Capitole. Ce qui nous vaut le plaisir de retrouver dans cette émission notre spécialiste de l'art lyrique, Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Robert ne pouvait pas venir sans son alter ego de Classique Toulouse, Serge Chosy, cofondateur et rédacteur de ce même site, mais également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Je suis très heureux d'avoir reconstitué ce duo de choc à mes côtés parce que le sommaire de ce numéro est encore une fois copieux, comme vous allez pouvoir le constater, notamment en ce qui concerne l'actualité musicale de la semaine dernière. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. L'agenda.
Bienvenue à vous deux et merci d'être au rendez-vous pour revenir d'abord sur la production d'Orphée aux Enfers au Théâtre du Capitole. Cette représentation donc de cet opéra de Jacques Offenbach, tout ayant affiché complet, comme c'est presque toujours le cas désormais pour la scène lyrique toulousaine. Je rappelle que la mise en scène était signée Olivier Py et je donne tout de suite la parole à Robert pour qu'il nous fasse part de ses impressions concernant cette production que vous avez, semble-t-il, beaucoup appréciée et je crois que vous n'avez pas été le seul.
Non, j'ai pas été le seul et en particulier mon ami Serge à côté de moi l'a vu et je pense que nous avons partagé pas mal de réflexions communes.
Absolument.
Là-dessus, donc si vous voulez bien, Eric, on va faire un duo pour parler
vous êtes là pour ça.
Voilà, de ce spectacle. Donc effectivement, Orphée aux Enfers, qui est un véritable chef-d'œuvre, arrive après plus de 30 années d'absence de l'affiche du Théâtre du Capitole. On se demande même pourquoi d'ailleurs. En même temps, on peut se dire qu'on ne peut pas tout donner tous les ans. Et les directeurs sont bien obligés de faire des choix. Alors donc, ce spectacle, cet opéra, on en a parlé sur cette antenne il y a 15 jours, il a eu droit à deux versions, et c'est la seconde version, celle de 1874, qui est donc un opéra féerie en quatre actes avec ballet, qui a été donné, qui a été retenue, cette version. D'ailleurs, c'est la version qui est retenue aujourd'hui plus généralement en France et ailleurs, lorsque ce spectacle est donné. Bon, ce que nous offre Christophe Christy est une production, coproduction, avec l'Opéra de Tours où elle fut créée en 2023 et l'Opéra de Lausanne. Et effectivement, c'est quelque chose d'absolument jubilatoire qui vraiment nous met le sourire aux lèvres, voire parfois des éclats de rire, n'ayons pas peur des mots, et qui nous rappelle combien à cette époque-là, des compositeurs savaient se moquer des puissants de ce monde, puisque Jupiter, l'un des personnages de cette mythologie largement revisitée, n'est autre que Napoléon III, bien sûr, grimé, et comme ce fut le cas, dans cette production d'Olivier Py.
Quel dommage qu'Offenbach n'ait pas connu Emmanuel Macron, notre Jupiter d'aujourd'hui.
Notre Jupiter d'aujourd'hui, effectivement. Alors, certains avaient peur que Olivier Py force un peu le trait, comme parfois il lui arrive de faire dans ses mises en scène d'opéra, et le public du Capitole en a été le témoin dans deux choses complètement différentes. Je pense à deux choses, dont un, la Gioconda, qui a été donnée en ouverture de saison au Capitole il y a quelques années, et qui était un spectacle absolument terrible, mais en même temps terrifiant, puisqu'il y avait une orgie, il y avait un massacre de nouveau-nés sur scène, etc. Alors, en même temps, c'est vrai que le monde de la Gioconda n'est pas un monde forcément des bisounours, mais là, il faut reconnaître qu'Olivier Py, quand même, avait, comme je le disais précédemment, un peu forcé le trait, tout en restant dans l'esprit de l'œuvre. Mais il est capable également de faire un dialogue des Carmélites qui restera dans l'histoire de la production de ses œuvres.
Une merveille.
Voilà. Il est très attaché à ce que cet opéra soit aussi une cinglante réplique amusante également du grand opéra à la française et également un pastiche des puissants de l'époque. Donc ça, il ne s'en prive pas et il nous amuse beaucoup. Dans les décors et costumes de Pierre-André Weiss, qui est l'un de ses complices favoris.
De très beaux décors, d'ailleurs.
Et de très beaux décors,
avec voilà. Certaines voilà. Illustrations magnifiques de grands tableaux, enfin, vraiment.
Ah oui, absolument.
Beau
oui.
Moment, là.
Où il convoque d'ailleurs de grands peintres. Et,
ah oui, absolument.
Où il est question, dans cet opéra, vous le savez, du destin tragique, entre guillemets, bien sûr, d'Orphée et d'Eurydice. Tout le monde connaît l'histoire, sauf que Offenbach et surtout ses librettistes l'ont largement revisité, puisqu'en fait, nous nous trouvons devant un couple qui ne se supporte plus et qui a décidé, enfin, ils n'ont pas décidé de se séparer, mais ils se trompent allègrement et l'un et l'autre. Bon, nous savons très bien comment tout ça finira, par un happy end de chaque côté, mais pas forcément par des retrouvailles telles qu'on pourrait l'imaginer. Il y a également des ballets. Il y a de nombreux ballets qui n'ont pas été gommés dans la partition qui a été donnée au Capitole. Et ma foi, ça donne des moments de détente, des moments très amusants. Ou évidemment, dans ces ballets, il y a le fameux galop infernal. Un galop qui, évidemment, n'était pas du tout destiné à ce qu'il est aujourd'hui consacré dans certaines salles parisiennes spécialisées dans...
Pour voir de jolies jeunes femmes lever très haut la jambe.
Voilà, avec des plumes partout, etc. Ouais. Bon, venons-en à la distribution. Ce qu'il faut retenir, Serge, t'es de mon avis, c'est qu'en fait, Offenbach, il y a quelques années, nous l'avons entendu, et toi et moi au Capitole, on va dire il y a 35, 40, 50 ans, pas 100 ans quand même, mais l'opérette, ce qu'on appelle l'opérette, était chantée par des voix dites d'opérette.
Oui, c'est-à-dire des acteurs qui chantaient, quoi.
Voilà, des acteurs qui chantaient. Voilà. Des acteurs qui jouaient très bien, mais qui chantaient comme des acteurs. Alors, pas tous, je ne veux pas dire pas tous, le cas général, mais c'était très souvent le cas tout de même. Et donc, Christophe Christie a dit non, moi je monte Orphée aux Enfers, mais avec des chanteurs d'opéra, parce que quand on regarde la partition d'Offenbach, c'est pas fait pour des acteurs. Donc, il a convoqué la fine fleur du chant francophone que l'on entend très souvent au Capitole, puisqu'en fait, tous ces chanteurs font partie de ce qu'on appelle la famille capitoline, des chanteuses et des chanteurs qui adorent venir au Capitole, d'abord parce qu'ils se retrouvent ensemble, ils sont entre camarades, entre copains, voire entre amis.
Oui, puis il y a l'accueil aussi.
Et puis il y a l'accueil du Capitole, les conditions de travail, etc. Bon, ça, tous les chanteurs que j'ai le plaisir et la chance de rencontrer me le disent, mais nous, quand on vient chanter au Capitole, on ne vient pas travailler. On vient travailler, certes, parce qu'on gagne notre vie avec ça, bien sûr.
Mais c'est du plaisir avant
tout. Mais en même temps, c'est un plaisir immense, mais vraiment immense. Dès qu'on a les distributions, on se dit « Ah, je veux retrouver un tel, une telle, on va bien se marrer. » Et c'est le cas. Donc, venons-en à ces distributions. Orphée et Eurydice, évidemment, ont droit à la primeur, c'est normal. Ce sont les rôles-titres, bien que ce ne soient pas les rôles les plus importants.
Et non.
Ils font partie des plus importants, mais dans l'Orphée Eurydice version 1874, il y a beaucoup plus de rôles que dans la version d'origine, et donc il y a tout un tas de rôles qui ont des parties chantées importantes, mais des parties dramatiques également importantes. Et ce que je veux dire qui est très intéressant, c'est qu'Olivier Py s'est attaché à tous ces rôles, même les petits rôles, il leur a donné une épaisseur dramatique sur scène, enfin dramatique, c'est-à-dire une épaisseur scénique, parce qu'aucun n'est vraiment dramatique au sens évidemment étymologique du terme. Donc, Christophe Christie avait convoqué deux interprètes du dernier Idoménée de Toulouse, Idoménée de Mozart, donc Cyril Dubois qui à cette occasion d'ailleurs avait chanté pour la première fois Idamante, et donc Cyril Dubois en rockstar peroxydé, il est à hurler de rire. Il y a longtemps, je n'avais pas autant rigolé au théâtre du Capitole, mais en même temps, qu'est-ce qu'il chante bien, en fait.
Oui. Non, et puis tout de même, là, il a inversé l'idée initiale que l'on pensait celle des opérettes d'Offenbach, c'est que ce sont de grands chanteurs qui jouent, qui sont des acteurs. Donc, ce n'est pas des acteurs qui chantent, plus ou moins bien, ce sont de grands chanteurs qui chantent très bien et qui jouent magnifiquement bien aussi. C'est ça qui est formidable.
Alors, certes, ils étaient entre les mains d'Olivier Py, mais enfin, quand même...
Cyril Dubois a déjà fait ses preuves.
Oui, mais je dois reconnaître que Cyril Dubois a une vis comica j'aurais imaginé. Mais le Capitole était mort de rire, vraiment. Et puis, le chant, évidemment, la luminosité du timbre, la souplesse, la virtuosité, c'est un mozartien, hein, oui. N'oublions pas. J'espère qu'on le reverra au Capitole.
Bon, je pense qu'on peut y compter.
Oui, je pense. Sonnerie 10, pardon, mais c'était rien moins que Marie Perbos, qui, lors des reprises de cette dominée, chantait Ilia. Alors d'abord, effectivement, nous le savions.
Elle a une nature de comédienne.
Elle a une nature plutôt extravertie, on va dire les choses comme ça, quand elle est sur scène, même lorsqu'elle est dans l'intimité. Elle a un aplomb, mais sur scène, mais c'est irrésistible. D'autant que quand même, Olivier Py lui fait faire beaucoup de choses en nuisette. Et vraiment, bon, il fallait y aller là, dans certaines scènes. Elle a un soprano, on le sait, particulièrement généreux. Offenbach, elle a quand même écrit une partition qui est loin d'être facile, qui est un peu plus longue que celle d'Orphée, et elle assume ça, mais alors vraiment, c'est merveilleux. Elle aussi, j'espère que nous aurons la chance de,
il y a des chances.
De la retrouver. Voilà. Mathias Vidal, qui fut chez nous un nadir absolument extraordinaire, lui chante un double rôle. Il fait Aristée
et Pluton
au premier acte, et Pluton à la fin du premier acte, tout le restant de l'opéra. Lui aussi, la musicalité de son nadir, on le retrouve dans son Pluton, mais également, comme pour Cyril Dubois d'ailleurs, avait une prosodie absolument extraordinaire. On comprend le moindre mot de ce qu'ils disent, et même quand ils chantent, que ce soit dans l'aigu, dans le médium ou dans le grave, on comprend tout. Et dans Offenbach, c'est fondamental. Le texte est fondamental. Si le public ne comprend pas toutes les allusions qui sont dans le texte, parce que la prosodie n'est pas assez nette, ça tombe à l'eau. Alors lui aussi, Mathias Vidal, bon, il fait un rôle dramatico-comique, puisqu'il fait Pluton, dont le dieu des enfers, bien sûr, enfin, un dieu des enfers revu par Offenbach quand même. Et il détaille son chant avec une précision d'intonation et une acuité d'accent absolument extraordinaire, vraiment un grand chanteur, mais ça, Mathias Vidal, nous le connaissons aussi. On retrouvait également Mars Cophonie. Lui, il chante Jupiter. Et Jupiter, c'est un rôle aussi important et particulièrement délicat, parce qu'il a une voix extrêmement percutante et un débit très précis. Et il est juste l'idéal pour ce type d'emploi. Enfin, Napoléon III, c'est lui dans cet opéra. Et il a une scène quand même très difficile où il chante.
Ah oui.
La fameuse scène de la mouche, qui est un duo avec Eurydice, hein, voilà, où il s'est déguisé en mouche. Il est suspendu à un câble. Et un chanteur qui chante sans les pieds sur terre, c'est difficile.
Ah oui.
Très, très difficile.
Il n'est pas ancré, effectivement.
Ouais. Et il s'en est sorti vraiment plus qu'avec les honneurs de la guerre. Et évidemment, ce duo de la mouche a eu un succès absolument indescriptible et mérité. On découvrait une jeune contralto gabonaise qui s'appelle Adriana Bignani-Lesca, qui chante l'opinion publique. Bon, il nous tarde de revenir l'entendre plus tard dans un autre rôle, parce que, alors c'est pas qu'elle n'ait pas un rôle important, c'est pas ça que je veux dire, mais elle a un rôle qui est en grande partie parlé. Mais le rôle chanté qu'elle a, la partie chantée, je veux dire, qu'elle a, nous permet d'entendre un timbre particulièrement intéressant.
Ah oui, oui, très beau timbre, très rond, très, très beau.
Et une belle ligne de chant. Honnêtement, moi, je la vois chantant Herda, je la vois chantant Ulrika, de grands rôles dramatiques, franchement. Hein. Il y a un rôle évidemment très comique que tout le monde connaît qui s'appelle Don Styx. Alors lui a droit à un air, une scène, quand j'étais roi de Béotie, qui t'a hurlé de rire également, c'est Rodolphe Briand. Et on n'entendait pas moins de cet artiste. Ensuite, il y a trois déesses particulièrement séduisantes et bien chantées. Anaïs Constant qui fait Diane, Marie-Laure Garnier qui fait Vénus. Alors, nous les connaissons par cœur,
oui,
puisqu'elles viennent souvent. Lucile Verbizier qui chante Minerve et Céline Laborie qui chante Junon. Là aussi, c'est simple. Alors, non seulement elles font fantasmer parce qu'elles sont magnifiques, mais en plus, elles chantent de manière très virtuose. Et elle conjugue ce beau chant à un abattage scénique vraiment génial. Il y a un Cupidon également qui est chanté par Julie Gousseau. Alors moi, personnellement, je ne la connaissais pas, toi.
Non, moi non plus.
Là, très clairement, non seulement le rôle, mais la voix annonce Niklaus des Contes d'Hoffmann. Alors ça, c'est une voix, j'espère, que nous reviendrons entendre dans un autre rôle, évidemment, un peu plus consistant, on va dire, que Cupidon. Elle a un soprano très velouté, c'est un phrasé exemplaire, vraiment, c'est très très beau. Il y avait dans le rôle terrible de Mercure, qui a été ajouté dans la deuxième version.
Oui.
Ouais. Enguerrand de Huys, donc, Enguerrand de Huys, quand même, que nous avions follement applaudi dans la création mondiale
de Voyage d'automne.
Hein. Et là, le pauvre, il rentre sur scène en courant, puisque n'oublions pas que Mercure, c'est le dieu du commerce, c'est le messager des dieux, c'est le dieu des voleurs aussi.
Oui.
Voilà, donc il est toujours tout excité. Mais la dernière fois qu'ils l'ont donné au Capitole, il y a 31 ou 32 ans, le Mercure était arrivé sur un skateboard. Il était en tenue de sport et sur un skateboard. Voilà, ce pauvre Mercure, chaque fois, il doit affronter des choses terribles, dont la plus terrible est son air. Parce qu'il arrive en disant, mais hop, et hop, c'est moi, Mercure, etc., etc. Et c'est véritablement écrit comme, non pas la pire, mais la plus terrible des arias rossiniennes consacrées au chant syllabique. Mais vraiment, on ne sait pas à quel moment ils arrivent à prendre la respiration. On ne sait pas. Et tout en faisant bien comprendre tout ce qu'ils chantent. C'est un véritable exploit. Et Enguerrand de Huys, là, encore une fois, j'espère que nous reviendrons l'entendre au Capitole. Quelqu'un qui n'est pas tout à fait passé inaperçu, mais qui malheureusement n'a pas beaucoup de choses à faire. Heureusement, il a à peu près 30 secondes à chanter en solo, et c'est extraordinaire. C'est un jeune bariton belge, Camille Bensaïn Lachéri, que nous avons découvert au Capitole dans le Papagay.
Absolument.
Voilà, il y a quelques années. Et là, il revenait juste pour le rôle de Mars, qui est vraiment un rôle aussi qui a été rajouté dans la partition 1874. Il n'a pas grand-chose à chanter, mais par contre, là, j'ai découvert une autre voix, parce qu'il était venu il y a 3 ans, et là, tout d'un coup, je découvre autre chose. Depuis son Papageno, la voix, le timbre s'est assombri, la projection est devenue quand même un peu plus péremptoire, le grain s'est épaissi également, mais épaissi pas au sens péjoratif du terme, mais le grain a pris de l'épaisseur, je veux dire, voilà. Mais sinon, bon, le peu qu'il avait à faire, il a fait très très bien. Bon, saluons le cœur et la maîtrise de l'Opéra National Capitole, toujours placé sous l'excellente direction de Gabriel Bourgoin. Et il y avait également cette année des petits élèves du projet Demos,
oui,
des petits violonistes, qui étaient placés, évidemment, qui ont travaillé, du moins, sous la direction de Ludwig Rosso de Meulen. Et leur petite intervention a été magnifique et amplement saluée par le public. L'orchestre du Capitole était placé sous la baguette de quelqu'un que je ne connaissais
Chloé
pas,
Dufresne,
qui s'appelle Chloé Dufresne. Alors, le soir de la première, peut-être qu'elle n'a pas pris tout à fait la dimension du Capitole, ou je ne sais trop quoi, mais elle a fait sonner, pour moi, fait sonner l'orchestre un peu trop fort. Et il y avait le stress de la première qui a joué vraisemblablement, et il y a eu quelques décalages fausse plateau. Tu me dis, Serge ?
Oui, non, je n'ai plus cette impression, mais moi j'étais le 29, donc voilà. Il y avait eu quelques représentations auparavant.
Oui, et donc, ça s'est mis en place.
C'était beaucoup mieux.
Il y a réajustement, ce qui peut se comprendre.
Oui, ça peut se comprendre également. Alors cela dit, même le soir de la première, cela n'a pas empêché le spectacle de recueillir un accueil absolument.
Oui, je sais que c'était un gros succès, toutes les représentations, et sans doute grandissant en allant vers la fin.
Voilà.
La dernière.
Quoi vous dire de plus ?
Eh bien, que ça a été une magnifique réussite, une de plus hein, au Capitole. Ouais. Pourvu que ça dure. Impossible de conclure ce retour sur Orphée aux Enfers sans écouter encore une fois son fameux French Cancan, ce galop infernal qui a beaucoup contribué à sa célébrité. En voici la version qu'avait enregistrée le chœur et l'orchestre du Capitole en 1978 sous la direction de Michel Plasson. We'll be right back. Le galop infernal d'Orphée aux Enfers dans la version enregistrée par le chœur et l'orchestre du Capitole dirigé par Michel Plasson en 1978. La prochaine production à l'affiche du théâtre du Capitole, c'est Jules César, l'opéra de Georg Friedrich Händel pour 5 représentations du 21 février au 2 mars. Retour maintenant sur le concert proposé par la saison Toulouse Guitare vendredi dernier à la salle du Sénéchal. Concert Révélation donné en fait en 2 parties distinctes par 2 musiciens appartenant à la jeune génération de la guitare classique internationale, la japonaise Erika Otani et le Toulousain Virgile Barthes, âgés l'un et l'autre de 21 ans. Nous y avons assisté tous les deux, Serge, avec autant de curiosité que de plaisir, je dois dire.
Exactement. Pour Virgile Barthes, ça n'était pas une découverte, puisque, comme tout le monde sait maintenant, tous les concerts de Toulouse Guitare, qui convoquent un grand virtuose international, sont précédés par une première partie donnée par un jeune étudiant en cours d'études. Et ça, je trouve que c'est une initiative formidable. Et là, nous avions deux jeunes exactement du même âge. Je crois même qu'ils sont nés le même mois de la même année. C'est incroyable, 2003. Et donc, nous avons d'abord entendu Erika Otani, qui est né au Texas, mais qui a été élevé au Japon. Alors, en plus de jouer avec un talent particulier, ils ont tous les deux choisi des programmes originaux, intelligents, très ouverts, à la fois sur quelques siècles de musique, en quelque sorte. Et elle a commencé avec une pièce d'Agustín Barrios Mongoré, qui est paraguayen, « A una limosnita por el amor de Dios ».
Une petite aumône pour l'amour des dieux.
Pour l'amour de Dieu, en fait. Et donc, dans cette pièce, elle pratique le trémolo que l'on entend d'habitude sous les doigts des mandolinistes. Elle a joué ça avec vraiment un art formidable. Hein, vraiment, c'était très, très beau. Elle a ensuite enchaîné. Alors, puisque Mongoré est mort en 1944, donc c'est le 20e siècle, elle a enchaîné avec du John Doland. Alors, on remonte loin, là, dans le passé, puisqu'il est mort en 1626, avec A Fancy, plein d'éloquence. Puis ensuite, elle est revenue encore au XXe siècle avec un certain Lennox Berkeley, que j'ai découvert là, hein, compositeur britannique que je ne connaissais pas. Elle a joué une sonatine, une musique intéressante, avec notamment un mouvement lent, qui est comme une confidence qu'elle a joué avec beaucoup de sensibilité. Et puis ensuite, de nouveau du XXe siècle, avec Hans-Werner Henze, les Drei Tentos. Alors là, c'est une musique étrange, hein, avec vraiment un sens de la percussion même dans la pratique de la guitare. Et puis elle a terminé par un compositeur du 19e siècle, Giulio Regondi, que je ne connaissais pas non plus.
Une découverte aussi pour moi.
Une rêverie qui est une sorte de complainte aimable et qu'elle a joué avec un jeu qui ressemble à de la dentelle en quelque sorte. Donc c'était un très beau moment que d'écouter cette jeune guitariste.
Et il est vrai qu'elle ressemble un peu une dentelière parce qu'elle est toute petite avec toute des, petite. Des doigts minuscules. On se demande d'ailleurs comment elle arrive à sortir ses sonorités.
Et alors, à la suite guitare. D'ailleurs, elle comparait ses mains à celles de Virgile Barthes. C'est impressionnant.
Avec lui qui est grand, qui est très grand.
Et il a au moins une phalange de plus.
Ah oui, quand on les voit l'un à côté de l'autre, c'était assez comique d'ailleurs.
Ah ouais, c'était formidable, formidable.
Voilà, en tout cas, elle est très très musicienne, cette Erika Otani. Et on va l'écouter d'ailleurs dans une interprétation d'une des pièces qu'elle a jouée vendredi dernier, salle du Sénéchal. C'était celle qui ouvrait son concert d'ailleurs, Una limosnita por el amor de Dios, du compositeur paraguayen Agustín Barrios Mongoré. Thank you. Erika Otani jouait Una limosnita por el amor de Dios d'Agustín Barrios Mangoré, la pièce avec laquelle elle a ouvert le concert de Toulouse Guitare vendredi dernier à la salle du Sénéchal. Virgile Barthe lui a donc succédé sur scène. Le jeune guitariste toulousain passé par la classe guitare du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Il poursuit aujourd'hui ses études au CNSM de Paris. Il a déjà gagné plusieurs concours internationaux. Nous l'avions déjà rappelé la semaine dernière lorsque nous avons annoncé ce concert. Et il nous a présenté un programme audacieux, à la fois sur le plan technique et concernant la variété des univers qu'il a abordés.
Ah oui, oui, complètement, puisqu'il a ouvert sa participation avec une pièce de Maurice Ohana, c'est quand même pas très courant, une pièce dont le titre est Saturnale. En fait, c'est le premier mouvement d'une suite qui, elle, s'appelle Cadran lunaire, du compositeur français Maurice Ohana. Alors, initialement, cette pièce était conçue pour guitare à 10 cordes, et il l'a lui-même transcrite pour guitare classique. Donc, c'est vraiment une écriture moderne, hein, avec des éléments de percussion, là aussi, qui interviennent, que le jeune guitariste vraiment manie avec aisance, donc très intégré. Et donc, c'était la version à 6 cordes qu'il jouait, évidemment. Puis ensuite, on retourne aussi vers le passé avec Dietrich Buxtehude, qui illustre un peu la rhétorique baroque, hein, avec sa suite en mi mineur, pour clavecin, initialement, là, qui est également transcrite pour la guitare, et avec notamment une sarabande vraiment pleine d'émotions, très très bien jouée. Et puis ensuite, alors là, c'est peut-être ce que j'ai encore préféré, c'est les trois sonates parmi les 555 oui. écrites par Domenico Scarlatti. C'est des sonates là aussi pour clavecin, hein, transcrites notamment une grande partie par Virgile lui-même. Hein. Là, vraiment, c'était tellement bien adapté à la guitare qu'on avait l'impression que Scarlatti l'avait écrit pour la guitare. Hein. Donc, c'était vraiment impressionnant. Et puis, là, il a conclu sa prestation avec une étonnante sonate, la sonate numéro 3 d'un certain Dujan Bogdanovic, compositeur américain d'origine serbe, qui est né en 1955.
Hein, oui, donc, complètement contemporain.
Compositeur d'aujourd'hui, avec trois mouvements enchaînés qui explosent de couleurs. Vraiment, c'était impressionnant. Il nous a plongé là dans un monde sonore nouveau, vraiment très, très pittoresque. Donc, les deux animateurs de la soirée sont revenus saluer. Il n'y a pas eu de bis. Hein.
Non.
Mais bon, ils ont eu un gros, gros succès.
Et parmi Virgile Barthe avait beaucoup d'amis dans la salle et des membres de sa famille, je pense.
Et puis, on a vu arriver des élèves des classes de guitare, puisqu'ils avaient leur guitare.
Oui, il y en a beaucoup qui sont arrivés avec la guitare dans le dos.
Oui. Ah oui, 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 beaucoup. Donc, ça a eu vraiment un gros, gros succès. Ça a été très intéressant.
Voilà, très, très belle prestation de Virgile Barthe. Déjà très virtuose, hein. Aucun accro dans ce qu'il fait.
Ah non, non, non.
Toujours très musical aussi. Oui, ça, c'est un musicien à suivre qu'on reverra forcément à Toulouse Guitare dans les années à venir. On va le réécouter, Virgile Barthe, qui joue ici le début de la suite en mi mineur de Dietrich Buxtehude. Virgil Barthe interprétait la suite en mi mineur de Dietrich Buxtehude, l'une des pièces au programme de son concert le lundi 31 janvier à la salle du Sénéchal, où il a donc succédé sur scène à Erika Ohtani. Très belle soirée avec ces deux représentants de la très brillante nouvelle génération de la guitare classique. Prochain concert de Toulouse Guitare le dimanche 30 mars à 17h à Saint-Pierre-des-Cuisines avec le duo réputé que forment le Croate Zoran Dukic et l'Italien Agnello Desiderio. Le troisième événement sur lequel nous souhaitions revenir a eu lieu lundi soir à Saint-Pierre-des-Cuisines justement. C'était le troisième rendez-vous de la saison des Clés de Saint-Pierre et il était dédié au quatuor à cordes avec un programme intitulé « Quatuors en contraste ». Ce concert devait être donné par une formation composée de la violoncelliste Fanny Spangaro, de l'altiste Samuel Joly et des violonistes Edwige Farinck et Jean-Baptiste Jourdain, tous membres de l'Orchestre National du Capitole. J'ai bien dit « devait être donné » par ces quatre musiciens, puisque malheureusement, une petite semaine avant la soirée du 3 février, Edwige Farinck a fait une mauvaise chute qui l'a obligé à déclarer forfait. La mort dans l'âme, bien sûr, rien de grave, mais elle était trop diminuée pour assurer sa partie. Il a donc fallu trouver un bon violoniste et même un très bon violoniste disponible et motivé pour la remplacer quasi au pied levé. Je vous laisse imaginer la difficulté d'une telle recherche en si peu de temps, sachant que le programme de ce concert n'avait rien de facile. Finalement, Jean-Louis Constant, professeur de violon au Conservatoire de Toulouse, qui a déjà fait des piges à l'Orchestre National du Capitole, a accepté de relever le défi. Précisons que c'est un excellent chambriste, hein, c'est pas n'importe qui fut membre fondateur du Quatuor Varèse, donc pas vraiment le premier venu en la matière. Il a toutefois fallu changer le programme annoncé pour ce concert. En effet, la seule condition émise par Jean-Louis Constant pour se produire avec ses trois camarades a été que le quatuor numéro 1 en la mineure de Béla Bartok, initialement prévu, soit remplacé par le quatuor opus 77 numéro 1 de Joseph Haydn. Le programme est donc devenu un peu moins en contraste que ce qu'il devait être, puisqu'aux côtés du quatuor opus 77 numéro 1 de Haydn voisinait Langsamer Satz d'Anton Webern et surtout le quatuor numéro 12 en mi bémol majeur de Beethoven. On connaît la proximité entre Haydn, qu'on considère souvent, à juste titre d'ailleurs, comme l'initiateur du quatuor à cordes, et Beethoven, qui poussera ensuite cette forme à ses sommets. Toujours est-il que l'ensemble fraîchement constitué, et dans lequel Jean-Louis Constant a eu à peine le temps de s'intégrer, a ouvert le concert avec l'opus 77, l'un des tout derniers quatuors à cordes composés par Haydn. Très belle pièce d'ailleurs, et il faut souligner que Jean-Louis Constant, qui la maîtrise parfaitement et depuis longtemps, a réalisé une très belle prestation, de même que ses trois camarades d'un soir. C'est même lui qui menait l'ensemble pour cette première œuvre de la soirée, lors d'une exécution d'une grande fluidité, avec un équilibre parfait entre les instruments. Ils ont enchaîné avec Langsamer Satz, pièce de jeunesse d'Anton Webern, le moins connu des trois membres de la seconde école de Vienne, une jolie pièce, encore tonale, même si l'on y devine l'œuvre à venir à certains moments, avec un début qui sonne très romantique. Hein. Elle a été jouée avec un mélange d'intensité, de retenue et de sensibilité qui a rendu l'interprétation très émouvante. J'ai même regretté personnellement qu'elle ne soit pas plus longue, elle l'aurait mérité. Enfin, c'est comme ça. Après une pause d'une dizaine de minutes, nos quatre musiciens sont revenus sur scène pour interpréter la troisième pièce au programme de la soirée, ce quatuor numéro 12 en mi bémol majeur, opus 127 de Ludwig van Beethoven. Énorme morceau très long et diablement ardu sur le plan technique. Ce n'est clairement pas une œuvre grand public, elle nécessite d'être écoutée en étant attentif à tous ses détails. Là encore, notre quatuor d'un soir a été à la hauteur pour en restituer toute la profondeur en alternant une nouvelle fois intensité, émotion et introspection quand il le fallait. Vraiment un grand bravo à eux et en particulier à Jean-Louis Constant qui a admirablement relevé le gant. Il n'y a pas eu de bis, on peut comprendre, compte tenu de l'engagement mis par les quatre musiciens lors de cette troisième œuvre de la soirée. Et pour illustrer ce retour sur le concert des Clés de Saint-Pierre donné lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines, je vous propose d'écouter l'œuvre qui ouvrait la soirée, celle qui n'était pas prévue originellement au programme, le quatuor opus 77 numéro 1 en sol majeur de Joseph Haydn, dont voici le très beau premier mouvement Allegro Moderato. Thank you. Le premier mouvement Allegro moderato du Quatuor opus 77 numéro 1 en sol majeur de Joseph Haydn, la pièce qui ouvrait le concert Quatuors en contraste lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines. Prochain concert des Clés de Saint-Pierre le lundi 31 mars à 20h pour un programme de quintette avec piano sous-titré Parfum d'Europe centrale. Je signale cependant que les musiciens des Clés vont se produire auparavant le dimanche 16 mars à 11h lors d'un concert hors les murs à la salle Altigone de Saint-Orens-de-Gameville. Vous allez pouvoir y entendre un quatuor de contrebasse et un programme allant du classique au rock. En plus, l'entrée est gratuite. Fin de cette première partie d'émission et petite virgule musicale avant de retrouver Serge Chausset et Robert Pénavert pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. Retour arrière.
Robert et Serge sont toujours avec moi pour l'agenda de la semaine que nous commençons avec le prochain concert et même les prochains concerts de l'Orchestre National du Capitole, puisque le programme dont nous allons vous parler est donné deux fois. C'est jeudi 6 et vendredi 7 février à 20h à la Halle aux Grains, notre ensemble symphonique qui retrouve un chef invité qu'il connaît bien, le catalan Josep Pons, pour deux soirées largement dédiées à Maurice Ravel. Je rappelle que nous célébrons en 2025 les 150 ans de la naissance de Ravel. Serge va nous donner quelques précisions sur le programme et sur les invités, parce que d'une part, il n'y a pas que du Ravel, et d'autre part, un soliste va se produire aux côtés de l'orchestre.
Oui, et en fait, il s'agit d'un programme lié à l'Espagne. Alors, on sait que Ravel adorait l'Espagne, bien qu'il n'y ait jamais mis les pieds.
Donc c'est à moitié basque quand même.
Donc il ça est basque, un peu, mais oui, mais tout près de l'Espagne, mais il n'y est jamais allé. Oui. C'est en fait sa mère, hein, basque, qui l'a vraiment initié au répertoire de la musique espagnole. Et là, en l'occurrence, Josep Pons va diriger trois œuvres de Ravel. Tout d'abord, l'Alborada del Gracioso. Bon, ça, c'est une œuvre très brillante, très belle. Puis la Rhapsodie espagnole, qui porte bien son nom. Et enfin, le célébrissime Boléro. Voilà trois œuvres qui justifient probablement le fait qu'on ait organisé deux concerts et non pas un seul. Et puis, il y aura une œuvre qui n'est pas de Ravel, qui est de Manuel de Falla, les fameuses Nuits dans les jardins d'Espagne, cette pièce pour piano et orchestre, qui sera donnée avec en soliste un grand pianiste espagnol que l'on a déjà vu ici à Toulouse, Javier Pellanes, donc qui est vraiment un excellent pianiste, l'un des grands de la jeune génération et qui est un grand familier, évidemment, du répertoire ibérique, mais pas seulement. Hein. Il joue beaucoup de Mozart, de Beethoven, de Schubert. On aura vraiment, cette fois, la réunion de deux artistes d'origine espagnole, je dirais même catalane pour ce qui est de Josep Pons.
Javier Pérez est andalou.
Andalou, lui, exactement, absolument. Donc voilà, un programme espagnol avec l'Orchestre National du Capitole pour ces deux soirées qui, je suis à peu près certain, feront le plein.
Oui, oui, alors Javier Pérez, il a 46 ans, en tout cas, un pianiste encore relativement jeune. Hein, il a été élève de la grande Alicia de la Rocha.
Et voilà.
Et aussi de Daniel Barenboim. Et j'ai vu qu'on l'avait découvert à Toulouse lors de Piano Jacobin en 2007.
Oui, oui.
Donc
oui,
ça date, bon, il est revenu depuis. Oui. Mais voilà, c'est un pianiste qu'on aime bien entendre ici. Alors pour revenir sur ces nuits dans les jardins d'Espagne, petite précision, composé par Falla en 1915, créé en 1916, sur la suggestion de ce pianiste fameux à l'époque, espagnol, Ricardo Vines, à qui l'œuvre fut d'ailleurs dédiée par Manuel de Falla. Alors cette œuvre, Falla était très proche des impressionnistes français, tels qu'on les appelait, je sais qu'ils ne revendiquaient pas forcément cette appellation, Debussy et Ravel, qu'il a fréquenté à Paris entre 1907 et 1914, et disait de cette œuvre que c'était sa pièce la plus impressionniste, et que c'était des impressions symphoniques. Et c'est très vrai, et on va en avoir un aperçu tout de suite, parce que, bon, ceux qui me connaissent bien savent que je suis un inconditionnel de Ravel, mais pour une fois, je vais plutôt vous faire écouter un extrait de Nuit dans les jardins d'Espagne, œuvre superbe de ce merveilleux compositeur qu'est Manuel de Falla. ça va nous permettre de découvrir le son du piano de Javier Pérez dans le deuxième mouvement, Danza Lejana. Danza Lejana, danse lointaine, deuxième mouvement des Nuits dans les Jardins d'Espagne de Manuel de Falla avec Javier Pérez au piano, une œuvre et un musicien que vous allez retrouver lors des concerts que donne l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Joseph Ponce. C'est jeudi 6 et vendredi 7 février à 20h à la Halle aux Grains. La Halle aux Grains accueille aussi le prochain concert du cycle des grands interprètes le lundi 10 février à 20h, concert qui réunit trois musiciens autour du pianiste russe Evgeny Kissin, Serge.
Oui, alors il s'agit d'un concert en quelque sorte commémoratif, puisqu'il s'agit de célébrer le cinquantenaire de la disparition de Chostakovitch. Et tout le programme est constitué d'œuvres de Chostakovitch. Et il y aura donc quatre grands artistes, avec tout d'abord le pianiste Evgeny Kissin, qui sera un peu la cheville ouvrière du concert, puisqu'il jouera dans les trois œuvres qui sont proposées. Grand pianiste, né en 1971, très demandé sur le plan international. Et nous aurons comme compagnon d'Evgeny Kissin le grand violoniste letton Gidon Kremer, qui lui a été l'élève de David Oistrakh au Conservatoire de Moscou, qui a obtenu de grands prix internationaux comme le concours Paganini, le concours Tchaïkovski. Un grand violoniste qui a beaucoup de caractère dans son jeu. Hein. Et puis, il y aura le français Gauthier Capuçon, vraiment un véritable ambassadeur de violoncelle d'aujourd'hui, hein, qui est quand même le fondateur et le directeur artistique de la classe d'excellence de violoncelle de la Fondation Louis Vuitton à Paris. Hein. Et puis, le quatrième compère sera Maxime Rizanov, qui est altiste et chef d'orchestre, et qui a été nommé au Grammy Award. Il est d'origine ukrainienne et britannique, et vraiment, il jouit d'une grande réputation en tant que musicien très dynamique. Donc, voilà, ils participeront aux trois œuvres inscrites au programme, la sonate pour violoncelle et piano en ré mineur, l'opus 40, la sonate pour violon et piano, opus 134, et la sonate pour alto et piano, opus 147. Toutes ces sonates de Chostakovitch, évidemment, eh bien, Evgeny Kissin ne quittera jamais la scène.
Voilà, il n'y a que lui qui sera toujours présent pour toujours l'interprétation présent de ces trois sonates. Quatre musiciens, mais trois duos successifs avec Evgeny Kissin au centre. Dernier concert à vous annoncer, vous présenter cette semaine, celui de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Il s'agit en fait d'une série de concerts dans le cadre des programmes mensuels que propose l'orchestre d'une part à Saint-Pierre-des-Cuisines et d'autre part à l'Escale de Tournefeuille. Ce mois-ci, deux concerts à Toulouse les 6 et 7 février, puis deux autres à Tournefeuille les 13 et 14, à chaque fois à 20h30. Le programme est sobrement intitulé Latino et Serge va nous en révéler le contenu ainsi que le nom du soliste invité.
Il y aura deux œuvres donc relatives aux saisons, puisqu'il y aura tout simplement la plus célèbre de toutes, les 4 saisons d'Antonio Vivaldi, mais qui seront associées aux 4 saisons de Piazzolla, les fameuses 4 saisons qu'il a intitulées « Las cuatro estaciones porteñas », les saisons de Buenos Aires. Exactement. C'est vraiment une confrontation amusante entre Vivaldi et Piazzolla.
Alors, ce concert va être dirigé par le violoniste Alexis Cardenas, qui est vénézuélien, né en 1976, et qui a étudié à la Juilliard School de New York, puis au CNSM de Paris. Il a d'ailleurs eu Jean-Jacques Kantoroff, le père d'Alexandre, pour professeur, et il est premier violon solo actuellement de l'Orchestre National d'Île-de-France. Alors, il faut savoir que c'est aussi le fondateur de plusieurs formations de musique traditionnelle et musique de monde qui vont jusqu'au jazz. Donc c'est quelqu'un qui a une palette très très large, et c'est donc lui qui sera à la fois le soliste et le directeur de l'orchestre pour ses concerts. Nous allons pouvoir découvrir le son du violon d'Alexis Cardenas avec cet extrait des 4 saisons de Buenos Aires d'Astor Piazzolla. C'est la partie intitulée Verano Porteño. Verano Porteño, extrait des 4 saisons de Buenos Aires d'Astor Piazzolla avec le violoniste vénézuélien Alexis Cardenas qui se produit donc avec l'orchestre de chambre de Toulouse pour un programme intitulé Latino. Il est joué les 6 et 7 février à Saint-Pierre-des-Cuisines, puis les 13 et 14 à l'Escale de Tournefeuille. Ces 4 concerts commencent tous à 20h30 et la billetterie est en ligne à l'adresse www.orchestredechambredetoulouse.fr. Notez de nouveau les 2 concerts de l'Orchestre National du Capitole à la Halle au Grain, jeudi 6 et vendredi 7 février à 20h. Dirigé par Joseph Ponce, l'ensemble symphonique toulousain donne un programme Ravel des Falla. Il accompagne notamment le pianiste Javier Pérez pour interpréter « Nuit dans les jardins d'Espagne » de Manuel de Falla. Le boléro de Ravel est également au menu de ces 2 soirées. Achat et réservation des places sur le site www.onct.toulouse.fr. Et puis je rappelle enfin que le grand pianiste russe Evgeny Kissine est en concert le lundi 10 février à 20h à la Halle au Grain, à l'invitation du cycle des grands interprètes. Il va jouer successivement trois sonates de Shostakovich avec le violoniste Gaïdon Kremer, l'altiste Maxime Rizanov et le violoncelliste Gauthier Capuçon. Vous pouvez réserver et acheter vos places en vous connectant au site www.grandsinterprètes.com. Tous mes remerciements à Serge Chosy et Robert Pénavert qui ont co-animé ce numéro avec moi. Je remercie aussi Christophe Aubry à la réalisation. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et je n'oublie pas de remercier les fidèles auditeurs de cette émission. Excellente semaine musicale à tous.